VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition spéciale, veille électorale 2022, en direct de Washington, Idrissa Sidoudia
et Eric Maniakidza.
Des millions d'Américains se sont rendus aux urnes hier lors d'élections dites de mi-mandat où tous les 435 sièges de la Chambre des représentants étaient à renouveler ainsi que le tiers du Sénat. Le contrôle de ce Congrès, aux mains actuellement du parti du démocrate Joe Biden, est crucial pour les deux dernières années de son mandat à la Maison-Blanche. M. Biden pourrait en effet se heurter à une forte résistance en cas de victoire législative des républicains. Ces élections sont également décisives pour l'avenir politique de son rival républicain Donald Trump, impatient de repartir à la conquête de la Maison-Blanche. Pour nous aider à analyser les résultats déjà connus, nous avons avec nous des politologues et observateurs politiques. Mais tout d'abord, Eric, les résultats dont nous disposons.
Nous avons les premières tendances Idrissa. Les projections de Reuters montrent que les démocrates ont déjà sécurisé 46 sièges au niveau du Sénat. Les républicains également. 8 sièges restent en jeu, sont disputés actuellement. On ne connaît pas l'issue de ces circonscription. Au niveau de la Chambre des représentants, les démocrates ont déjà sécurisé 164 sièges, tandis que les républicains ont déjà gagné 186 sièges, selon toujours les projections de Reuters. Il y a des élections au niveau des États, de gouverneurs, qui ne sont pas très importants au niveau du contrôle du pouvoir fédéral. Idrissa.
Oui, mais ce sont les gouverneurs qui sont responsables souvent de la validation des résultats et aussi ça compte beaucoup pour les élections présidentielles à cause du contrôle qu'ils ont, Eric. Merci pour ça, mais est-ce que vous avez les résultats de certains postes de gouverneurs?
Il y a le Maryland, par exemple, qui a élu le premier Africain-Américain à la tête de cet État. Et il y a aussi l'Arkansas, où Sarah Huckabee, qui était la porte-parole de l'ex-président Donald Trump, a déjà gagné cet État.
Oui, et il se trouve que son père était aussi gouverneur de cet État de l'Arkansas.
Jusqu'en 2007.
Voilà. Et puis, il y a eu le Massachusetts, où la première lesbienne a été élue gouverneur, n'est-ce pas, de cet État libéral, disons, des États-Unis, le Massachusetts. Il s'agit de Haley. Elle s'appelle Haley et elle a été élue. Maura Haley, elle était en quelque sorte attorney général de cet État du Massachusetts. Et au Maryland, vous avez parlé de Westmore, qui est le premier Africain-Américain à accéder à ce poste, mais aussi une autre première, son colistier, celui qui est maintenant gouverneur adjoint élu, Aruna Miller, est immigré indien. Voilà, maintenant nos invités, nous aurons le professeur Mohamed Mbodj de Manhattan College. Nous aurons aussi Jory Ngandu Likadi qui est à Atlanta en Géorgie où une importante élection sénatoriale a lieu. Mamadou Ben Diakité en Pennsylvanie, également très crucial. Le professeur Dennis Beaver, qui est un avocat et chroniqueur juridique à Bakersfield, en Californie, vous le connaissez très bien. Et puis voilà, nous allons avec eux, tout d'abord, nous leur disons bonjour. Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, commençons par vous, professeur Mohamed Mbodj. Quelle leçon tirez-vous de ces élections et de ce conseil jusqu'à présent?
On s'attendait à un raz-de-marée rouge qui ressemble donc les couleurs du Parti républicain et cela ne semble pas être avéré. Il semblerait que, pour compte fait, peut-être ils auront une majorité très courte au Sénat peut-être un ou deux sénateurs. Et alors que là, c'était projeté peut-être même une sorte de différence de 6, 7 ou 8. Alors que dans la Chambre des représentants, où ils pensaient gagner une cinquantaine, voire même une soixantaine de sièges, on risque de se retrouver avec une portion congrue, ou peut-être l'écart des sièges serait, disons, moins de 10. Donc c'est un peu ce que les projections et les analyses politiques et les bulletins à dépouiller nous donnent pour l'instant. En tout cas, on peut conclure que Biden n'a pas subi ce que subissaient ses prédécesseurs, une raclée, donc pour des élections de mi-mandat. Ce sera certes une défaite pour les démocrates, mais une défaite très honorable, très limitée dans l'ensemble.
Merci, professeur Eric.
Oui, professeur, tous les projecteurs sont ainsi braqués sur la Pennsylvanie, la Géorgie est un autre.
Allons en Pennsylvanie, puisque vous l'avez mentionné, Eric, avec Mamadou Ben Diakité.
Oui, Mamadou Ben Diakité, en Pennsylvanie, ce n'est pas encore décidé.
Non, bonsoir, ça va bien. Et c'est Mamadou Ben Diabaté, en Diakité.
Pardon, alors, Mamadou Diabaté, allez-y.
Oui, pour le moment, ce n'est pas décidé, mais la tendance, je crois que les républicains, les démocrates vont gagner en Pennsylvanie. Parce que les votes restants sont plus à Philadelphie. Et Philadelphie, très généralement, vote pour les démocrates. Donc, ouais. Moi, je suis à peu près à 80% sûr que Pennsylvania, les démocrates vont remporter.
Mais comme vous le savez, M. Diabaté, le candidat au poste de gouverneur, le démocrate Josh Shapiro, a gagné sans conteste face à Doug Mastriano, alors que sur le plan sénatorial, en quelque sorte, c'est toujours l'incertitude. Comment vous expliquez ça?
Bon, moi, j'explique ça par, comme on appelle, l'électibilité. Et quand on regarde un peu les candidats, le candidat gouverneur, le gouverneur était plus présentable, plus convaincant que le sénateur démocrate, qui surtout a eu un très mauvais débat.
Parce qu'il avait des problèmes de santé. Il avait subi un AVC et voilà, ça se voyait les séquelles.
Ça a beaucoup joué sur lui.
Ok, alors donc, Eric, nous passons maintenant à Monsieur Denis Beaver, qui est avocat et chroniqueur juridique à Bakersfield, en Californie.
En Californie, le gouverneur de cet État a été reconduit. Il y a aussi sénateur qui avait remplacé Kamala Harris dans cet État, qui est déjà confirmé comme élu. Denis, comment vous analysez d'abord les résultats au niveau de votre État? Il n'y avait pas d'enjeu, les démocrates, ils sont majoritaires là-bas.
Oui. Donc, il n'y avait pas question. On savait très bien à l'avance ce qui allait se passer. Hein. À mon avis, le truc, le problème, ce qui trouble beaucoup d'Américains, c'est les gens qui soutiennent toujours Trump et qui veulent qu'il va devenir président encore une fois. Il y a deux, trois jours, je ne sais pas qui a dit, non, si les républicains gagnent, on va abandonner l'Ukraine. C'est ça qui ça fait de la peine et on est vraiment inquiet.
Monsieur Beaver, comme vous le savez, l'ancien président Donald Trump était fort impliqué dans ces élections de mi-mandat. Il avait ses propres candidats. Comment Estimez-vous les résultats pour M. Trump après toute cette campagne qu'il a battue pour appuyer ses propres candidats?
Puisqu'il y a beaucoup d'Américains qui l'aiment, hein, qui croient à ce mensonge que l'élection a été fauchée, a été volée. Ils y croient. Trump peut dire n'importe quoi. Et oui, d'accord, Donald, t'as raison. C'est un moment dangereux, très dangereux pour le pays.
Merci, Monsieur Dennis Beaver. Maintenant, on parle à Jory Ngandou-Likadi, qui est à Atlanta, en Géorgie. Atlanta où le gouverneur a été réélu, c'est quelqu'un que Donald Trump n'aimait pas particulièrement. Il lui avait trouvé même un candidat, n'est-ce pas, contre lors des primaires, mais il a réussi à se faire réélire. Ce n'est pas encore clair pour les candidats maintenant démocrates et républicains au Sénat.
Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent en ces moments de par le monde. Je vais bien répondre à la question. Ici, chez nous, à Atlanta, Georgia, il y a le gouverneur qui a été réélu. Les deux candidats noirs présentés par, d'un côté, le républicain et de l'autre côté, le démocrate, ils sont vraiment côte à côte. Donc, à ce moment, on ne peut pas dire qui peut gagner et qui ne peut pas gagner. D'emblée, je vais vous dire, comme l'ami venait de le souligner, les candidats présentés par Donald Trump est très bien parti, mais c'est un parti républicain qui est divisé, parce que nous n'avons pas vu l'engouement comme ça a été dans les camps de démocrates, où nous avons vu l'ancien président Obama, l'ancien président Bill Clinton, on a vu la candidate malheureuse Hillary Clinton qui est passée, et même les autres membres qui ne pouvaient pas être dans ce comité-là, ils sont passés à tour de rôle dans chaque État où ils avaient des candidats, ils sont allés défendre, ils sont allés faire la campagne. On n'a pas vu ça, on a vu seulement Donald Trump seul, avec les candidats qu'il aimait, et les autres candidats pouvaient dire non, je ne voudrais pas que vous puissiez m'accompagner. Alors imaginez, lorsque vous êtes dans un parti politique comme celui-là, c'est déjà difficile, c'est déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. D'emblée, les candidats gouverneurs ont été réélus, mais les deux ici, ils sont côte à côte jusqu'à ce moment. Je pense qu'on va assister au scénario de la fois passée, où on va dire qu'ils doivent revenir dans une semaine.
Un ballotage.
Et puis aller encore aux urnes. Donc c'est ça ce que nous pouvons faire comme analyse à ce moment.
Ouais, donc un ballotage est possible. Il faut avoir plus de 50% pour pouvoir passer, n'est-ce pas, au premier tour.
Et le secrétaire d'État en Géorgie a très bien mentionné qu'aujourd'hui, on n'aura pas les résultats des sénatoriales là-bas.
Voilà, Eric. Et parlant des candidats, bon, dans le cas de la Géorgie, le candidat de M. Trump est un ancien footballeur, une vedette du football américain, pas le soccer, comme ils disent. C'est Herschel Walker, et c'était un candidat très controversé, tout aussi comme ce monsieur J.D. Vance dans l'Ohio. C'était un siège républicain. Bon, le sénateur républicain a décidé de prendre sa retraite et monsieur Trump a appuyé J.D. Vance et J.D. Vance a gagné. N'est-ce pas? Alors, professeur Mohamed Modj, qu'est-ce à dire? C'est un bilan mitigé pour monsieur Trump?
Oui, très, très mitigé. En fait, beaucoup de personnalités, disons, modérées qui ne se sont pas représentées ou ont été défaites durant les primaires par des candidats jusqu'au boutiste de Trump. Maintenant, aux élections générales, on se rend compte que donc il y a un problème d'éligibilité. Ces gens-là ne semblent pas remporter la palme. Certains vont passer. Herschel Walker peut aller effectivement à une sorte de ballotage. Et ce n'est même pas parce qu'il est représentatif, mais c'est seulement parce qu'il y a Chase Oliver qui a pris les 2% qui vont vont manquer pour faire donc la majorité absolue en Géorgie. Et je suis convaincu que dans un run-off, donc lorsqu'il y aura un deuxième tour, je suis convaincu que Warnock va passer. Donc d'une manière générale, Trump va évidemment dès demain proclamer que ses candidats sont passés, mais en réalité, c'est une défaite si on y va ligne par ligne, et surtout l'importance de ces candidatures, et en particulier les jusqu'au boutistes qui souvent ont été vaincus. Et aussi, il risque d'y avoir donc une tempête la semaine prochaine, parce que j'ai déjà vu donc Mike Pence aligner des interviews et des représentations à la télé, à la radio la semaine prochaine. Je ne serais pas surpris qu'il se proclame candidat avant que Trump ne se proclame candidat, ce qui va encore accentuer la division du Parti républicain.
Oui, et déjà le gouverneur de la Floride, DeSantis, a été réélu. Le gouverneur du Texas, un autre républicain aussi qui est candidat possible à la présidence, a été réélu. Donc c'est intéressant à ce niveau. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition spéciale, veillée électorale 2022. Eric?
Oui, monsieur Sidi Bé, vous êtes toujours avec nous?
Monsieur Diabaté.
Diabaté.
Oui, je suis là.
Oui, le pays connaît une inflation record. Au regard des tendances actuelles, est-ce que vous avez l'impression que le facteur économie a vraiment dominé ce scrutin?
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que quand on regarde l'inflation qui est trop high, l'économie n'est pas aussi bon et le score soit aussi serré. Et je ne crois pas que l'économie a beaucoup joué. Mais moi, je pense que finalement, les partis, les démocrates et les républicains sont repartis dans leur parti. Ce qui, je veux dire, les républicains qui n'étaient pas pour le moment, qui ne voulaient pas voter républicain, finalement sont revenus à la maison. Et même les démocrates aussi sont revenus à la maison. Donc, je crois que c'est ce qui a fait que c'est beaucoup plus serré maintenant. Et puis surtout, il y a le camp républicain est très divisé maintenant. Ceux qui sont modérés et ceux qui sont les pro-Trump. Donc, la division aussi a beaucoup joué. Parce que les gens qui aiment Trump et que Trump a, les gens que Trump a soutenus ont des problèmes. Et je crois que je me souviens que le chef des républicains a dit un jour que Trump a amené des gens qui ne peuvent pas être élus.
Ah, vous voulez parler du président, du chef de file des républicains au Sénat, Mitch McConnell. Yes. Il avait dit que la qualité des candidats comptait beaucoup. Pour ce qui est du Sénat, pour la Chambre des représentants, c'est une autre histoire.
Oui, mais moi je vois que le Sénat, ça va être, je crois que ça va être la même chose, 50-50 ou un peu plus 51 pour les démocrates. Je ne vois pas les républicains gagner le Sénat. Moi, je ne vois pas.
OK, on verra ça avec les résultats des prochains jours.
Dennis Beaver, on a vu, par exemple, à New York, même si le gouverneur actuel a scellé sa victoire, et on a vu une percée des républicains. Apparemment, la question sécuritaire a beaucoup joué, a penché la balance.
Oui, tout à fait. Mais laissez-moi dire une chose. À mon avis, c'est la première fois dans l'histoire dans la mémoire de voir les candidats qui sont, par exemple, Herschel Walker, l'ancien footballeur, c'est un idiot, un crétin, tu l'écoutes, il parle, mais il dit rien.
Oui, c'est vrai. Et il y a eu beaucoup de controverses ou de scandales. Bon, il a toujours nié.
Et... Oui. Combien de... Il est contre l'avortement. Et paraît-il.
Oui.
Hein, il a payé pour les avortements, qui sait combien. Combien d'enfants il a
en
eu.
Fait, le...
Son fils a dit, c'était pas un bon papa. Mais si tu l'écoutes, tu penses, alors, ce mec va devenir... un mec important dans notre gouvernement.
Monsieur Beaver, il se trouve que l'ancien président Barack Obama lui-même a fait ce genre de réflexion en disant que ce n'est pas parce que vous avez été un grand joueur de football que vous devenez automatiquement un homme d'État ou un politicien ou un homme politique, et qu'il fallait d'autres qualités que celles-là. Mais il semble aussi que le statut de célébrité joue beaucoup, parce que c'est le cas aussi du candidat que l'on a en Pennsylvanie, le docteur Oz. Mehmet Oz, et aussi, si vous regardez ce qui se passe dans l'Arizona avec, n'est-ce pas, la dame qui était aussi à la télévision. Donc, c'est un phénomène assez intéressant à observer sur la scène politique américaine.
Mohamed Bodj, vous êtes à New York. Comment vous expliquez cette percée des républicains certains républicains ils pensaient qu'il allait même remporter cet état de New York au niveau des élections de gouverneur.
Je pense que, et j'ai toujours pensé qu'en fait il y avait une sorte de surpublicité pour Zeldin, pour ce qui est du poste de gouverneur.
Le candidat républicain.
Voilà, c'est ça, le candidat républicain. Je n'ai jamais douté que Cassio allait gagner. Mais effectivement, le côté sécuritaire a joué son rôle dans certains quartiers et dans certains districts. Les Noirs ne sont pas allés voter autant qu'on s'attendait à ce qu'ils votent dans ces élections aussi, il faut le dire. Et troisièmement, le nouveau découpage électoral, en fait, a favorisé des circonscriptions qui étaient très, très démocrates, ont été divisées et éparpillées, et maintenant on se retrouve avec l'émergence d'au moins une ou deux circonscriptions qui vont plutôt pencher vers les républicains. Mais pour compte fait, et lorsqu'on fera le calcul demain, à part la défaite de Sean Patrick Maloney qui semble être acquise, il n'y a rien de nouveau qui se soit passé dans l'État de New York. Les démocrates tiennent les rênes et ils dominent la machine et leur majorité n'a jamais été mise en doute au niveau du Congrès local. Donc, et la représentation new-yorkaise à Washington sera très fortement démocrate, à une ou deux exceptions près.
Oui, de façon générale, et je vais poser la question à l'un d'entre vous qui est à répondre, si vous voulez bien. Il s'agit de savoir, au cours de ces élections, il a été beaucoup question du crime. Et on a, naturellement, les républicains disent que pour ce qui est de la violence, du crime, les démocrates sont faibles. Il y a eu l'inflation dont a beaucoup parlé le Parti républicain pour dire que la gestion du président Biden est déplorable. Il y a donc ces questions. Et puis, du côté démocrate, le président Biden et aussi l'ancien président Barack Obama ont tous parlé de ce qu'ils appellent « sauver la démocratie américaine », le péril que court la démocratie américaine. Selon vous, quelle a été la réaction du public au vu de ce qu'on sait déjà à propos de ces élections?
D'abord... Je vais prendre la parole parce que les autres ont déjà parlé. Je vais dire quelque chose.
C'est M. Diabaté?
C'est M. Jorin Gandou depuis Atlanta, Georgia.
OK.
Je pense que les élections ici sont fondamentalement définies par les éléments ici après, l'inflation, l'économie, les avortements, les crimes, les frontières qui sont ouvertes, l'éducation, ainsi de suite. Lorsqu'on pose la question à la population, qu'est-ce qui vous intéresse dans ces élections? Il dit, moi, c'est l'économie, c'est l'inflation, ce sont des crimes, notre pays n'est pas protégé, nous ne sommes pas sécurisés. Donc, la gestion est calamiteuse. Le résultat des élections ici, peu importe ce qui peut arriver aujourd'hui, tôt ou tard, même dans 2 ans, le président Biden aura à payer. Parce que l'inflation est là. Lorsque le président voit, on lui laisse le pouvoir, les gallons de l'essence étaient à 2 dollars ou à 1,95 $. Aujourd'hui, on l'achète à 4 dollars, 5 dollars. On lui dit qu'il y a l'inflation, il dit qu'il n'y a pas d'inflation. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Les gens, les crimes, il y en a de tout bord. Il y a des gens qui entrent dans ce pays par milliers pour des visées électoralistes. Donc, ils paieront comme cela pouvait être le cas avec le mari de Nancy Pelosi. Nous allons plus loin pour dire...
Monsieur Ngiori Gandou-Likadi, je vous arrête tout de suite parce que vous allez un peu trop loin. Ce qui est arrivé au mari de Madame Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, est déplorable et est à déplorer dans une démocratie. On ne va pas attaquer, n'est-ce pas? On ne va pas utiliser la violence contre le mari d'une adversaire politique. Donc, maintenant, pour terminer, bon, Monsieur Dennis Beaver, il suffit de dire que il y avait aussi cette question, vous vous intéressez, n'est-ce pas, aux questions juridiques, il y a eu cette question de l'avortement, surtout depuis la décision de la Cour suprême sur l'avortement. Alors, est-ce que ça a eu un impact selon vous dans ces élections?
Oui, certainement. Notre Cour suprême, oh là là, ah mais quel crétin! Incroyable ce qu'ils ont dit. Oh là là, c'est un vrai cauchemar. Et ça nuit, le respect qu'on avait pour notre Cour suprême, en faisant quelque chose aussi dangereux comme ça. Moi, j'étais sidéré de voir ça. Donc, oui, le pays, comme un de nos collègues a dit ce soir, est tellement divisé. J'ai peur, vraiment, pour notre démocratie. Les gens qui suivent notre Hitler, Trump, quel danger pour l'avenir de ce pays. Les gens qui croient, ils y croient, hein, ce qu'ils disaient. The big lie, comme on dit, un grand mensonge.
Merci beaucoup, Monsieur Beaver. Bien entendu, ces propos n'engagent que vous.
Mohamed Bodj, très rapidement, il nous reste quelques secondes. Quel est le poids des partis tiers dans ce scrutin?
Les indépendants ont plus ou moins faussé le jeu en Géorgie, certainement dans l'Utah. Donc, ce sont les deux États où, finalement, les candidatures indépendantes. Mais en Oregon et ailleurs, ces candidatures n'ont pas beaucoup pesé. Donc, ce pays est toujours divisé entre républicains et démocrates. Et s'il y a victoire des démocrates, c'est une défaite des républicains. Et s'il y a une victoire des républicains, c'est une défaite des démocrates. Donc, la polarisation est là. En fait, elle est même un peu plus solide, elle est même un peu plus ancrée qu'elle ne l'était peut-être il y a quelques années. Et donc, le consensus va être très, très difficile. Mais de l'autre côté, ce qui va se passer, c'est que avec les majorités très courtes, et avec des partis qui ne sont pas homogènes, en particulier le Parti républicain, il va être très difficile.
Merci beaucoup.
De gouverner.
Merci beaucoup, professeur Mohamed Modj de Manhattan College, Ngiori Gandou-Likadi qui nous parlait d'Atlanta, Mamadou Ben Diabaté de Pennsylvanie, et Dennis Beaver, républicain, un avocat et chroniqueur juridique à Bakersfield, en Californie. Merci à Eric Manirakidza, à Fatou Kalala Alimassi et à notre ami Kelvin Fowler. Voilà, c'est tout pour cette édition spéciale Veille électorale 2022 du Monde Aujourd'hui VOA Afrique. Au micro, Idrissa Seloudia.